Good Morning Business, le monde qui bouge, l'interview.
Allez, Emmanuel, il faut quitter le plateau, je vous fais évacuer par la sécurité. Attention, 7h19, on va parler du Japon avec SoftBank qui a investi hier en France. C'est un investissement de 75 milliards d'euros annoncé et qui est devenu donc hier la plus grosse capitalisation boursière du Japon. On va en parler avec Jean-Yves Collin. Bonjour,
bonjour.
Spécialiste de l'Asie du Nord à l'Asia Centre. Il y a une sorte de soft power quand même à travers SoftBank qui est désormais donc la première capitalisation boursière et qui investit dans le monde entier dans la tech, ça devient un acteur important pour la France. Racontez-nous un peu cette entreprise.
SoftBank, c'est pas une entreprise au Japon, c'est pas une entreprise récente. C'est les Français découvrent SoftBank depuis hier matin. Tous les journaux parlent de SoftBank, mais SoftBank est une entreprise assez ancienne qui a été fondée donc par un Japonais d'origine coréenne, Masayoshi Son. C'est d'abord fondamentalement un gigantesque fonds d'investissement, SoftBank, et qui trouve notamment ses ressources, non pas forcément auprès des Japonais, mais auprès des investisseurs internationaux. Et il a fait de nombreuses levées de fonds auprès des fonds proches-orientaux, Arabie Saoudite, Émirats. Il est aussi connu au Japon parce que c'est une entreprise de téléphone, de communication. Donc, si vous allez dans des grands magasins au Japon, vous verrez des corners tout blancs marqués SoftBank. C'est très chic. Ça ressemble un peu, si j'ose dire, au magasin Apple.
Oui.
Donc, voilà. Donc, c'est pas une entreprise récente qui a fait beaucoup d'investissements dans le passé, parfois avec des hauts, parfois avec des bas. Quand je dis des bas, c'est des pertes très importantes, notamment au moment de la crise financière des années 2007-2008. Ils ont fait des investissements dans des banques qu'ils n'ont pas rentabilisé et ils se sont refaits. Ce sont, entre guillemets, Masayoshi Son, c'est un développeur, un investisseur capitaliste, mais c'est aussi, il a une manière de travailler qui est un peu de trading. Donc là, il est plutôt dans la partie industrielle, la partie télécommunication, centre de données.
Hier, première capitalisation boursière du Japon devant Toyota, ça oui. C'est quand même assez symbolique.
C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est de voir que le marché financier japonais était un peu en train de changer. C'est-à-dire que pour les gens de ma génération, c'est-à-dire relativement âgés, le Japon, c'était une sorte de vol d'oie, pour reprendre une expression qu'on utilisait beaucoup dans les années 60-70. Il y avait des grandes entreprises comme Mitsubishi, Sumitomo, Mitsui, qui étaient suivies par des PME très contraintes par les grandes entreprises. Et puis le Japon lui-même entraînait les nouveaux pays industriels, qui étaient la Corée, Taïwan, Singapour. Les grandes entreprises industrielles japonaises ont eu des revers, faut le dire. Elles ont été concurrencées d'abord par les entreprises sud-coréennes, taïwanaises, chinoises, mais d'autres sont apparues. Et en ce moment, vous voyez la bourse japonaise augmenter très fortement.
Record sur record.
Il y a quelques temps, j'écrivais des papiers sur la bourse japonaise et le Nikkei était à 55 000. Puis il est passé à 60 000.
Ouais.
Puis il est remonté. Puis il est redescendu en dessous de 60 000. Aujourd'hui, il est aux alentours de 67 000, 68 000. Donc ça, c'est aussi une caractéristique du marché financier japonais, comme de tous les marchés. Il est très volatile. Et il est volatile pourquoi ? Parce que ce sont les entreprises électroniques, enfin, je dis électroniques au grand sens, au sens le plus large du terme, des entreprises qu'on connaît pas très bien, comme Mulata, comme Tokyo Electron, comme SoftBank, qui tirent le marché. On trouve au Japon la même chose qu'on trouve aux États-Unis et en Corée du Sud, avec le bémol que Samsung baisse terriblement sur la côte sud-coréenne.
Analyse.
Alors, si les entreprises se portent bien, l'État japonais, lui, est un petit peu plus en difficulté, notamment à cause de la fermeture du détroit d'Ormuz, puisque 90% du pétrole japonais pour le Japon transitait par là. Alors, l'État, pour l'instant, arrive à maintenir les prix de l'essence bas avec des subventions. Est-ce qu'ils en ont les moyens ?
Le gouvernement japonais, il a, si je compare par rapport au gouvernement français, il a d'abord réussi à faire passer son budget, qui est de l'ordre d'un peu moins de 700 milliards d'euros, relativement facilement, à son grand dépit, avec un peu de retard, c'est-à-dire un retard de quelques jours. Quand le budget japonais a un retard de quelques jours, ce qui arrive très rarement, c'est comme quand un train japonais a un retard d'une minute. On vous rembourse le prix du billet. Et pendant un certain temps, Madame Takaichi et sa ministre des Finances avaient déclaré de manière assez ferme pas de budget supplémentaire. Il y en avait déjà eu un en fin d'année. Et là, ils ont décidé un budget supplémentaire qui est de l'ordre de 16-17 milliards d'euros pour créer, non pas immédiatement pour relâcher des subventions, mais pour créer un fonds de réserve. C'est en fait un budget de 3 000 milliards de yens. Sur les 3 000 milliards de yens, il y en a de 2 500 qui sont destinés à constituer un fonds de réserve et l'autre qui peut constituer à subventionner notamment les dépenses d'électricité. Il faut savoir que l'électricité et le gaz, il faut savoir que les prix de l'électricité et du gaz au Japon sont sans commune mesure avec les prix que nous connaissons en France. Donc, il poursuit. Comme vous le savez, le déficit budgétaire japonais est quelque chose dont je n'arrive plus à retrouver la trace dans le temps tellement il est ancien. Il bat de loin la France. Et en réalité, il est largement financé par la Banque du Japon qui absorbe les obligations d'État japonaises.
Mais à quel point l'économie japonaise aujourd'hui, elle souffre de la situation moyenne? On parle de toute l'industrie pétrochimique, on parle de difficultés de produits qui ne sont plus en stock.
Le Japon est dans une situation difficile. Comme tous les pays d'Asie, c'est une chose qui m'a frappé parce qu'il se trouve que j'étais à Singapour et au Vietnam au mois de mars, c'est que dès le démarrage de la crise, les responsables de toute l'Asie ont eu à la fois conscience des risques de prix, de l'effet prix de la hausse du prix du pétrole, et puis d'autre part des risques d'approvisionnement, notamment parce que dans le cas du Japon, 93% effectivement de la vient du Proche-Orient. En revanche, dans le cas du GNL, c'est simplement 10%. L'essentiel de l'approvisionnement du GNL vient d'Australie. Idem d'ailleurs pour le charbon qui est australien ou malais. Donc c'est surtout un problème pétrolier. Et pour l'instant, ils arrivent à passer. Mais dès le démarrage, tous ces pays ont un comportement intéressant. C'est-à-dire qu'ils insistent sur le côté... il va falloir faire des économies.
Baisse de la demande.
Il va falloir faire des économies. Pas tellement sur le côté subvention.